Bonsoir Anne Fauquemberg et merci. Ce soir, nous sommes à Chambéry, dans les studios de France Bleu, Pays de Savoie. Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Laubert. Attends, pousse-toi s'il te plaît, Yvon. Merci. Qu'est-ce que je fais? Je dame. J'agrandis le domaine de Bonneval. Je crée ma propre piste. C'est ça l'esprit de la vallée de la Maurienne, Yvon. Chacun contribue à sa mesure, avec ses moyens, au développement et à la préservation de cette très belle vallée. Et puis moi, comme je suis une femme, je dame. Bon, prochaine étape, mon petit tire-fesse personnel. Et je te propose, Yvon, si t'es d'accord, je te propose d'être perchman. Ça te changera pas trop? Alors moi, j'ai quand même un projet auquel il faut que je m'attelle. L'idéal, ce serait de me marier avec un blanc. Ici, des blancs, il y en a partout. La famille blanc. C'est eux qui ont les clés de la vallée. Donc je me marie avec un blanc. Et puis si on a une fille... On l'appellera Laure. Pousse-toi, s'il te plaît. Tu marches sur ma fortune, là. C'est un marronnier des journaux télévisés qui, chaque hiver, montre le premier flocon, le flocon messianique. Celui qui lève les inquiétudes des responsables des stations de ski et plus généralement de tous ceux qui vivent du tourisme. La neige a suscité tant de fantasmes, généré tant de success stories au début des Trente Glorieuses, Courchevel, Méribel, l'Alpe d'Huez, puis Avoriaz, Tignes, les menhirs, des stations souvent construites sur des espaces vierges, sous l'impulsion de l'État et avec l'aide d'investisseurs privés, tandis que d'autres stations à dimension plus humaine, attachées à ne pas détruire le paysage et conciliant attrait touristique et développement durable, s'accrochent pour garder leur place au paradis de l'or blanc. C'est le cas de Bonneval-sur-Arc, où nous serons ce soir au fin fond de la vallée de la Maurienne, en Savoie. Bonneval, dont le village typique est répertorié parmi les plus beaux de France, classé pour partie aux monuments historiques, et dont le domaine skiable est géré par la mairie, garante, a priori, de tous les équilibres. Entre Bonneval et sa voisine Val d'Isère, par exemple, deux modèles différents, deux ambitions différentes. On en parle avec vous ce soir, Emmanuel Georges, bonsoir. Vous êtes chercheuse en économie de la montagne à l'IRSTEA de Grenoble, acronyme de...
Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture.
Votre terrain d'observation à vous, c'est la montagne, montagne au sens large, les Alpes de toute façon.
Oui, alors mon terrain de jeu, c'est l'économie des stations de sport d'hiver et dans une équipe de recherche que je dirige et qui travaille plus globalement sur le développement des territoires de montagne.
Alors, avec vous en studio, dans les studios de France Bleu, Pays de Savoie à Chambéry, Jean-Yves Remy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes PDG du groupe Label Montagne, opérateur de domaines skiables, qui gère aujourd'hui, alors, 9, je crois, domaines skiables répartis dans les Vosges, les Alpes du Nord et du Sud.
Oui, et également l'Italie.
Et l'Italie, depuis
avec
quand
l'Italie? Avec Bardonecchia, depuis 3 ans.
D'accord. Alors, puisqu'on va s'attacher dans cette émission, entre autres, à incarner l'épopée, le développement et puis l'avenir du tourisme d'hiver en montagne, mais je voudrais que vous nous racontiez en quelques mots l'histoire de votre père, Jean-Marie Remy, et du jour où il décide de créer une station de ski dans les Vosges.
Alors, effectivement, c'est une histoire d'une famille où, en 1960, même un petit peu avant, mon père avait fait son école hôtelière à Thonon, avait donc fait des extras dans les stations alpines naissantes, et s'était dit, dans un milieu plutôt industriel, un village industriel, un fond de vallée vosgien, comment pouvoir agrandir, il était hôtelier au départ, donc comment pouvoir agrandir la saison, qui au départ était exclusivement une saison d'été, eh bien, en essayant de faire du ski dans les Vosges. Ce n'est pas forcément évident, parce que c'est pas un massif de prédilection. L'altitude se situe entre 900 et 1400 mètres, avec des aléas, bien entendu, de neige, très évident. Pour autant, il y a cru. Il a d'abord essayé une tentative, on va dire collective, au sein de l'Office du tourisme. Il s'est très vite aperçu que c'était difficile, cette démarche collective était peu dynamique. Donc a repris à son compte avec ses deux frères l'initiative, a d'abord créé une petite station au-dessus de la Bresse, qui s'appelait Super Vallée. Alors, les aléas climatiques, on les a déjà connus, c'était en 1960, la première année il a plu. Tout l'hiver.
Pas de neige.
Alors, pourquoi Super Vallée? Parce que c'était l'année des Jeux Olympiques de Squaw Valley. Et en fait, il a plu tout l'hiver et son surnom était donné, c'était Super Lavé. Voilà. Bienvenue dans le monde de la montagne. Au bout de 3-4 ans, il a fait son autocritique. Il s'est aperçu que le site avait beaucoup de handicaps et il a tout démonté. Il a tout remonté au pied du Honeck, qui est aujourd'hui l'implantation de la station de la Bresse-Honeck, qui effectivement était un site qui avait beaucoup plus de valeur ajoutée.
Et les terrains, avant de devenir une station de ski, c'était quoi? C'était la forêt? On est dans les Vosges?
C'était exclusivement de la forêt, puisqu'effectivement, la Bresse est une ville forestière, grande ville de forêt. Et ça a été d'ailleurs un des premiers dilemmes, qui était de dire, est-ce qu'on coupe cette forêt pour faire du ski, un sport, un loisir naissant? Et c'était un vrai challenge au départ.
Emmanuel Georges, la montagne, longtemps après la Seconde Guerre mondiale, peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, ce sont toujours par endroits des forêts, des terres agricoles, où l'agriculture d'ailleurs extensive est impossible.
Alors, effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, on est plutôt avec une économie agricole et pastorale, de temps en temps forestière, comme dans les Vosges. Et le tourisme, notamment en Savoie, dans la vallée de la Tarentaise, va devenir une opportunité de développement au sortir de la Seconde Guerre mondiale, sous l'impulsion du département de la Savoie, qui d'ailleurs avait comme objectif économique premier de produire de l'électricité et de la vendre. Simplement, la production d'électricité va être nationalisée par l'État et donc le département de la Savoie va un peu par défaut se reporter sur l'aventure des sports d'hiver avec notamment la création de la station de Courchevel en 1946.
Alors derrière chaque station de ski de moyenne montagne en tout cas, il y a une histoire presque individuelle, la volonté d'un homme souvent, alors c'est le cas de votre père Jean-Yves Remy, mais la volonté d'un homme de convertir son village au tourisme. On peut en citer d'autres, des noms, je pense à Robert Blanc par exemple, à Hauteville, le berger devenu aménageur, il y en a d'autres.
Oui, c'est vrai que ce qui moi m'a toujours frappé dans l'aventure des sports d'hiver depuis même depuis le début du XXe siècle, c'est que c'est une affaire d'hommes et de femmes, particulièrement d'hommes. Jean-Yves Remy vient de le rappeler pour sa station. Il y a des noms qui peuvent être associés. Alors vous parlez de Robert Blanc, c'est l'enfant du pays qui finalement a travaillé à la création de la station des Arcs aux côtés de Roger Godineau, pardon. Monsieur Legout à La Plagne, il y a toute une série d'architectes qui ont été associés à la création de stations. C'est Laurent Chapie, c'est Maurice Michaud, bien sûr. Donc il y a toute une série d'hommes qui sont un peu associés à cette aventure-là dans le massif alpin, mais aussi ailleurs, dans d'autres contextes territoriaux français.
Qui pressentent qu'il y a un vrai marché, entre guillemets, à prendre. On est au début ou au beau milieu des Trente Glorieuses. La société urbaine doit compenser la dureté des modes de production fordistes, vous l'expliquez bien dans vos travaux. C'est toujours des gars du cru, entre guillemets, ces gens qui commencent à aménager la montagne pour les loisirs, ou est-ce que la montagne a aussi été le terrain de jeu d'architectes ou de polytechniciens qui trouvaient exotique de travailler à son développement?
Alors, c'est vrai que quand on se retourne sur l'histoire de la création des sports d'hiver en France, on a tendance à faire une analyse un peu historique en mettant en relief certains personnages. Il faut surtout retenir de cette période-là qu'il y a eu un mélange, une imbrication, un travail de concert entre des acteurs locaux et des acteurs extérieurs au territoire qui ont amené leurs capitaux, leurs idées, leurs réseaux de financement notamment. Et puis, c'était aussi des acteurs politiques qui ont joué de leur mandat. Souvent, ils étaient avec des mandats locaux, mais ils avaient aussi une implantation parfois nationale. Et ça leur a permis de, là aussi, faire jouer leur position pour trouver des lignes de financement pour la création de stations, par exemple.
Alors, tous n'ont pas la même vision de ce à quoi doit ressembler une station ou à qui elle doit profiter. Nous avons voulu ce soir raconter l'histoire de Bonneval-sur-Arc, qui a, elle aussi, son Deus ex machina.
Thank you. Gilbert André, racontez-nous ce jour de 1953 où le jeune homme que vous êtes découvre le village de Bonneval au fin fond de la vallée de la Maurienne. Et d'abord, qu'est-ce que vous faisiez dans les Alpes, vous qui étiez des Vosges ?
Ah oui, pour moi, les Vosges, elles étaient trop plates. J'aimais la splendeur des hautes montagnes enneigées, même en été, que je trouvais trop belles pour qu'on les abîme. Alors, c'est pas si simple que ça. Je suis parti pour 5-6 mois, et je suis parti d'Évian à pied, et j'ai traversé toutes les Alpes françaises, jamais, en ne mettant jamais le pied sur une route goudronnée. Et j'ai mis trois mois dans un sens, deux mois dans l'autre sens, pour savoir le réel, ne pas raconter des choses théoriques. Alors ça, je l'ai fait pendant 3 années de suite. Oui, parce que c'est grand, les Alpes. Hein. En printemps, au début d'une nouvelle exploration des Alpes, je me suis arrêté à Bonneval. Mais là, je me suis dit, oh, mais c'est trop beau, je vais essayer de rester plus longtemps.
À quoi ça ressemblait, Bonneval, à l'époque ? Comment vivaient les hommes ?
Ils vivaient de peu, ils n'avaient pas d'argent. Ils avaient du bétail, des vaches, des chèvres, des moutons. Et ils cultivaient la terre. Alors, où était, quelle était donc votre question ? Je ne sais plus.
Donc Gilbert André, en 1953, vous arrivez pour la première fois à Bonneval.
Oui, oui.
Vous décidez d'y rester. Et un jour, on vous apprend que vous êtes élu maire.
On me demande de mon avis d'abord. Est-ce que vous acceptez d'être maire ? Alors je dis, bon, on va essayer. Et puis ça a duré 40 ans. Non, 39 exactement.
Mais alors votre mission au tout début, vous vous dites, il faut moderniser Bonneval.
Moderniser, pardonnez-moi, mais c'est pas l'expression que je choisirais. Rendre Bonneval plus habitable pour qu'il ne le quitte pas. Parce qu'il commençait à voir ce qui se passait ailleurs, il voyait passer les voitures, il y avait quelques touristes qui quand même plantaient leur tente ou demandaient à être hébergés. Et au contact des visiteurs, ils ont bien vu que il y avait autre chose à faire que de rester là. Enfin, les jeunes qui réagissaient dans ce sens-là. Les plus âgés ne voulaient pas quitter. Ils adoraient leur pays. Alors, mon idée était qu'ils puissent vivre décemment. Et donc, pour ça, il fallait trouver les moyens. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui peut les aider financièrement ? Eh bien, c'est peut-être des locations de chambres ou des locations d'appartements. Je voyais pas d'autre solution. Et alors, ils n'ont d'abord pas voulu, parce qu'ils ont dit, mais ça coûte cher. Je dis, mais alors, vous pouvez emprunter. Ils ne voulaient pas emprunter. Je dis, bon, la commune va faire des appartements et elle les vendra aux habitants. En n'étant pas pressurée, la commune pourra assurer la garantie à la banque et les habitants auront plus de facilité pour attendre que ça ait marché pour avoir de l'argent pour rendre. Alors, le directeur du Crédit Agricole de Chambéry a été merveilleux, il a très bien compris, il a marché et la commune a obtenu les prêts nécessaires pour faire de premiers essais de construction de chalets avec des chambres à louer.
Donc les habitants de Bonneval commencent à recevoir des citadins, des touristes,
voilà.
Et ils y prennent goût puisqu'ils vous demandent, ils voient que ça rapporte.
C'est ça.
Et ils vous demandent de faire une station de ski.
Pas tout de suite. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Ils n'avaient jamais vu de ski ni de raquettes. Ils ne savaient pas ce que c'était. Mais ils l'ont appris par les citadins qui venaient. Et je n'ai pas été surpris de constater que 2 mois de location, ça ne pouvait pas suffire pour rembourser les emprunts. On s'est dit, il n'y a qu'une solution. Il faut louer l'hiver, donc il faut faire des remontées mécaniques. Alors, il y a eu la commune qui a fait un télésiège et 3 petits téléskis. Et on montait quand même à 2200, enfin, mais ça suffisait pour un début. Alors, la commune s'est chargée intégralement des remontées mécaniques. Et alors, les habitants, ce qu'ils ont fait de merveilleux, c'est qu'ils ont travaillé à faire les pistes de ski bénévolement. C'était fantastique. Puis, la deuxième année, on a déjà commencé à donner des petits salaires réduits. Et ça s'est arrangé petit à petit comme ça, jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes, qui se mettent à construire des chalets pour eux et à les louer pour eux. C'est venu en espace d'une dizaine d'années. Ça.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur que le développement touristique vous échappe, prenne trop de place ?
Oui. Oui, c'est une crainte. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de monde. Bonneval n'est pas fait pour ça. Il vaut mieux que ça soit de grande qualité, mais qu'il n'y ait pas trop d'invasion, parce que ça ne correspondrait pas à l'esprit de Bonneval. Ça ne ressemblerait plus à rien. Bah.
Alors Gilbert André, pour vous trouver aujourd'hui, on a dû prendre la route entre Lens-le-Bourg et Bessan, s'arrêter en bord de route, faire 200 mètres dans la neige. Oui. Votre chalet est perdu dans la vallée de la Maurienne. Depuis votre grand bureau, on a une vue imprenable sur le Mont Cenis. Le développement de la montagne, l'urbanisation de la montagne, elle n'a pas gagné cet endroit-là de la Maurienne.
Oui.
Et est-ce que la montagne d'aujourd'hui correspond à celle dont vous avez rêvé toute votre vie et pour laquelle vous avez œuvré ?
Non. Non, elle est quand même trop souvent dépareillée par des erreurs. Bon, il y a quand même eu énormément dans les Alpes. Il y a peut-être 50 sites qui se sont urbanisés uniquement pour l'argent, pour faire des choses quand même immenses, quoi. Alors, si ça fait des monstres, ça défigure tout.
C'est aussi pour ça que vous vous êtes un peu retiré du monde. Vous vivez un peu en ermite ici.
Oui, j'en suis pas fier. C'est pas tellement. Les contacts avec tout le monde sont utiles aussi. Utiles et agréables. Il faut pas. J'exagère par moments.
J'exagère par moment, dit celui qui a réussi à convaincre un village entier, à s'ouvrir au tourisme et à mettre tout le monde à contribution. Emmanuel Georges, dans le cas de Bonneval, les habitants se sont bien prêtés au jeu. Il faut dire que les exemples de succès commencent à être connus à l'époque. Alors Chamonix-Megève, ça remonte déjà au début du XXe siècle, mais plus récemment Courchevel.
Alors effectivement Courchevel, il y avait aussi l'exemple de Val d'Isère qui s'est fait dans les années 30 et qui a été aussi un marqueur d'un développement touristique qui pouvait apporter une plus-value au territoire et qui donc a favorisé la percolation du développement des sports d'hiver dans la vallée.
Donc les habitants finalement se disent pourquoi pas nous ?
Oui, notamment il y a une anecdote assez intéressante, la commune de Saint-Bon qui héberge Courchevel en fait a choisi de voir accoler à son nom Saint-Bon en tarentaise de manière à être associé à cette vallée-là qui commençait à être vue comme une zone touristique. Et donc avant même la création de Courchevel, il y a eu cette démarche-là donc qui marque la volonté pour les collectivités locales de se développer dans ce secteur-là.
Avec donc souvent l'aide des habitants, Gilbert André nous racontait aussi qu'après qu'il avait organisé des excursions en car pour les habitants de Bonneval, ils allaient en Suisse entre autres et puis il les faisait loger à l'hôtel pour qu'ils puissent s'imprégner de la manière dont les hôtels suisses accueillaient les touristes, apprendre à faire un lit, etc. Vous, Jean-Yves Remy, pour votre père, à la Bresse, ça avait été accueilli comment cette volonté de monter une station ?
C'était très compliqué parce que la Bresse, en tout cas les Vosges, étaient extrêmement industrielles. Il y avait les métiers traditionnels, le textile qui ne se portait pas très bien, le granit, le bois. Et quelque part, il y a encore aujourd'hui, ça s'estompe, mais une vraie dualité entre le monde ouvrier, le monde industriel et le monde du tourisme et du service. Et mon père me racontait que à l'époque où la station était naissante, le maire d'époque qui était un industriel lui disait le fait pour mes salariés de voir les touristes passer devant l'usine au moment où ils cassent la croûte, ça les incite pas à travailler. Donc il y avait vraiment une dualité entre ce monde du service et du tourisme et du loisir et puis ce monde dur, industriel, ouvrier. Et il a fallu faire cette révolution. Aujourd'hui, elle est acquise et on voit qu'elle est acquise quand les locaux apprennent un métier du service, ce qui n'est pas forcément évident. Je me souviens même encore il y a quelques années que à l'hôtel des Vallées, les serveurs, les cuistots, il fallait les chercher de l'extérieur parce que les jeunes n'apprenaient pas ces métiers-là, parce que c'est pas dans les gènes d'un village.
Ça a été conflictuel aussi au début, Emmanuel Georges, parce que l'aménagement de la commune nécessitait des expropriations assez nombreuses.
Alors, l'expropriation est venue par le biais d'un outil qui est une ordonnance de 1958 que l'État a posé et qui était un formidable outil pour les collectivités locales qui voulaient s'engager dans le développement touristique. C'est d'ailleurs ce qui, notamment aux Arcs, a été très douloureux avec une expropriation de propriétaires fonciers. Et c'est évidemment une situation complètement différente de celle qu'on a connue à Courchevel où le foncier était propriété de la commune. À l'exception de quelques parcelles, donc le travail d'aménagement n'a pas du tout été le même à Courchevel par rapport aux Arcs où les contestations ont été souvent très virulentes avec des choses qui percolent encore aujourd'hui par rapport au sentiment d'avoir été exclu du développement.
Mais c'était des expropriations pour cause d'utilité publique parce qu'à l'époque on arguait de l'aménagement du territoire. Vous, Jean-Yves Remy, à la Belle Montagne, votre groupe, l'aménagement du territoire, c'est officiellement une de vos missions encore aujourd'hui ?
Oui, complètement. C'est la principale mission. C'est-à-dire que on peut s'interroger, y compris d'ailleurs dans le développement qu'a mené mon père, quels étaient effectivement l'énergie et les objectifs. Je crois que très clairement, il y a la volonté de développer, d'être entrepreneur. Ça, c'est très clairement dans les gènes de la famille. Mais c'est aussi et surtout de vouloir participer à la vie sociale. On a une mission d'aménagement du territoire et de maintenir les populations sur place, de réorganiser une activité économique parce que ce sont souvent des territoires qui ont connu l'exode. Alors, pour les Alpes, c'était plutôt effectivement le monde agricole. Pour les Vosges, c'était le monde industriel qui s'est totalement délité. Boussac, enfin, toutes ces grandes catastrophes industrielles, il fallait trouver une autre activité économique qui permette de maintenir les gens au pays. Et c'est clair que ma plus grande satisfaction, c'est quand j'ai pu embaucher un directeur de la Bresse qui avait fait des études d'ingénieur et qui a retrouvé un travail à forte valeur ajoutée, un travail d'ingénieur à la Bresse. Et ça, c'est pas évident.
Ce qui explique alors qu'aujourd'hui, encore, Emmanuel Georges, les stations de ski sont un service public.
Alors, les stations sont, en tous les cas, la gestion des remontées mécaniques,
oui,
c'est
voilà,
un
c'est
service public caractère industriel et commercial, mais Jean-Yves Rémy pour en parler encore mieux que moi. Et ça, c'est le fait de la loi Montagne qui, du coup, amène à avoir des modes de gestion très différents selon les choix des communes. Globalement, on oscille entre des communes qui conservent via des régies la maîtrise de leur outil de production et donc qui gèrent en direct leur domaine skiable et d'autres, comme c'est le cas pour les stations du groupe La Belle Montagne, qui sont en délégation de services publics. Avec un opérateur privé ou une société d'économie mixte.
J'avais remis.
Oui, c'est vrai que ça, c'est un élément fort, en tout cas en France. Je crois qu'au départ, ça n'était pas forcément un service public. En tout cas, il y avait une initiative privée. Et mon père a créé la station de la Bresse en louant les terrains à la commune, mais en développant son entreprise comme n'importe quel commerçant. Et ça correspond à une première génération. Alors, on trouvait du développement public où c'était la collectivité, parfois des acteurs privés. C'est vrai, et je suis d'accord avec vous, on en a parlé tout à l'heure, toujours une aventure humaine. Mais pour autant, on avait les deux statuts. La loi Montagne de 85 est arrivée et a fait de ce métier, de cette activité de gestion de remontée mécanique, en a fait un service public. Ce qui a été pour les acteurs privés, qui était ma famille, qui a été un drame. Parce que du jour au lendemain, là où ils étaient commerçants, alors malgré tout, avec un esprit d'aménagement de territoire, mais en tout cas commerçants, propriétaires de leurs biens. On leur a dit du jour au lendemain, vous gérez un service public, à ce titre-là, vous rendez des comptes à la collectivité, vos biens, après un certain temps, feront retour gratuitement à la collectivité, et vous serez remis en jeu. Donc, c'est vrai qu'il y a eu deux périodes très fortes. Une première où on était plutôt chez les développeurs, où il y avait de l'action peut-être plus privée, plus particulière. Et puis, il y a une deuxième période, celle qu'on connaît aujourd'hui. La Belle Montagne s'y est adaptée, puisqu'on répond à des appels d'offres et on exploite là où on n'était pas à l'origine. Mais en tout cas, une deuxième période où l'action publique est beaucoup plus forte, puisque les communes deviennent les autorités organisatrices de ce service.
Alors, à Bonneval-sur-Arc, la station est toujours gérée jusqu'à présent et jusqu'à quand, on le verra, toujours gérée par une régie communale. Il y est moins question de gros sous que de débrouille et de courage. Sandra Anselmet, qu'est-ce qu'on peut acheter ou trouver dans votre boutique de souvenirs à l'entrée de Bonneval qui soit typiquement de Bonneval ?
Ah bah, la marmotte en peluche. Même si l'hiver, elle est bien cachée. Mais voilà, après, je fais pas mal de choses. Voilà, pour les cadeaux, pour tout. Et même pour les gens du coin. Parce que j'aime bien, je travaille beaucoup avec les gens aussi de Bonneval. Parce que tout le monde ici a plusieurs activités, a des gîtes. Donc je fais beaucoup d'articles de déco, de rideaux, de plein de choses, voilà. Et puis je cherche sans cesse, voilà, pour me renouveler, pour qu'il y ait des choses différentes, parce qu'on a une clientèle qui revient beaucoup d'une année sur l'autre, et voilà, qu'on soit pas toujours que dans la boule neigeuse, et puis la petite cuillère de Savoie, etc.
Vous êtes de Bonneval, vous, Sandra ?
Alors non, c'est mon mari. Moi, je suis venue en vacances en 1993 avec mes parents. J'avais 15 ans, et l'année suivante, j'ai rencontré mon mari. Et voilà, je suis toujours restée, et puis voilà, on a fondé notre famille, et on s'est installée à Bonneval. Enfin, moi je me suis installée à Bonneval, je suis restée, lui il n'a pas bougé, c'est souvent comme ça à Bonneval. Lui il a toujours eu du travail, il est moniteur, voilà, on a fait un chalet avec des gîtes, comme beaucoup de monde ici, on a fait notre maison avec des gîtes, voilà. Et puis maintenant, depuis 3 ans, j'ai repris le commerce de mes beaux-parents. Donc ici, et voilà, on est resté. Mais voilà, la question s'est jamais posée pour nous de partir.
Vous avez des gîtes, alors vous en avez combien ?
J'en ai 4. Ouais. Donc j'ai 2-6 personnes, un 8 et un 12. Et l'année dernière, on a fait la piscine. Pour proposer une offre aussi, pareil, il faut proposer des choses nouvelles et des choses tendances. Alors après, on a construit très jeune. Hein. J'avais 20 ans, mon mari 24. Donc voilà, on a fait la piscine juste l'année dernière, donc qui fait que c'est aussi ça dans les prix, on n'est pas coincé par des emprunts ou des choses comme ça, parce que maintenant c'est de plus en plus difficile. Puis bon, mari est maçon l'été, pareil, il faut être multicarte. Et donc le fait d'avoir fait nous tout, ben ça c'est ce qui a rendu le projet possible.
Vous avez investi beaucoup d'argent.
On a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Parce qu'investi, on n'avait pas forcément des gros apports au début, mais on a tout fait nous. Voilà, avec l'aide de nos parents. Mes parents, mes beaux-parents qui étaient très présents et qui nous ont beaucoup aidés. Voilà, on a travaillé et puis voilà.
C'est vraiment la particularité de Bonneval en fait. Tous les habitants ont investi dans cette station.
Bien sûr, ouais. Bien sûr. Et je vois par exemple quand on a construit notre maison, quand on a posé le toit. Ben, il y avait peut-être une cinquantaine de gens de Bonneval qui sont venus et ont cloué tous les planches sur le toit. Et c'était génial parce que voilà, tout le monde participait, venait donner un coup de main pour finaliser le toit. Et souvent, c'est comme ça, il y a une grande solidarité entre nous. Il y a des différends, comme dans tous les petits villages, hein, c'est pas tout rose, hein, loin de là. Mais quand il y a quelque chose, on est quand même relativement bien unis, quoi, je trouve.
Voilà. Il y a des craintes, certains habitants ont peur que, qu'au bout d'un moment, le modèle ne puisse plus tenir et qu'il faille s'acoquiner, entre guillemets, avec Val d'Isère ou avec un investisseur privé.
Alors, des craintes, il faut en avoir, je pense que c'est légitime, surtout dans la période où on est. Je pense que c'est important de toujours se remettre en question. Et on a des enfants, on aimerait bien aussi qu'ils puissent rester à Bonneval et qu'ils aient du travail. Et c'est pas toujours évident, parce qu'on a des moniteurs qui sont été obligés de partir sur Valsonie pour avoir du travail, parce qu'à Bonneval, il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde. Et justement, de pouvoir s'installer, on ne peut pas faire 10 commerces comme moi, on ne peut pas faire 15 restaurants, même si à la limite des restaurants, il pourrait peut-être y en avoir encore. Et on est un peu coincé par le nombre de lits. Donc pour vivre, par exemple, nos pistes, elles sont en déficit, parce qu'on n'a pas suffisamment de lits pour les faire tourner. Donc là, ça va bien, on est en février, c'est plein. Mais on a tout le mois de janvier qui est quasi vide. Mars qui tourne un petit peu plus au ralenti. Et malheureusement, on ne peut pas se développer au niveau immobilier parce qu'on est coincé au niveau géographique, par les avalanches, par plein de choses, par la situation géographique. Donc il faut trouver quand même des solutions qui conviennent à tout le monde et dans le respect de nos traditions, de nos valeurs, de économie, tout ce qui convient. Après, c'est comme toujours, il faut que ça soit mesuré. Mais pour nous, c'est quand même compliqué. On travaille que 7 mois. Donc ça veut dire que les autres mois, il n'y a plus personne. Donc sur 7 mois, il faut arriver à faire un chiffre décent pour pouvoir vivre toute l'année. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche ici. Donc il faut que tout le monde puisse vivre.
Vous faites quoi les 5 autres mois de l'année ?
Alors je pars un peu en vacances, puisque là, on travaille 7 jours sur 7, de Noël jusqu'à fin avril. Début juin, je rattaque, jusqu'à fin septembre. Donc, mois de mai, c'est un peu pour partir. Et après, il me reste octobre, novembre. Il y a les enfants qui sont à l'école. Donc, on a la chance d'avoir l'école à Bonneval, 2 classes, et c'est génial. Voilà, donc, pourvu que ça dure.
Bon, ben encore 2 mois et demi, 7 jours sur 7, et puis vacances.
Ouais, c'est ça, exactement.
Bon courage.
Merci beaucoup.
On entend bien chez les habitants de Bonneval la conscience que tout pourrait s'arrêter un jour, que le rêve accompli à force de travail pourrait s'achever. Jean-Yves Remy, c'est une sorte d'instinct de survie qu'on retrouve généralement dans toutes ces stations de moyenne montagne ou ces petites stations de montagne telles que celles dans lesquelles votre groupe a investi.
Je crois que c'est deux choses. C'est déjà effectivement la volonté de travailler au pays, de vivre et travailler au pays. Je crois que ça, c'est... Toute personne qui vit en montagne a cette motivation, cette obsession parfois. Et puis ensuite, si on prend plus globalement une station, une station c'est une entreprise. C'est une entreprise avec des services différents et que on a comme objectif les uns les autres, que ce soit les commerçants, que ce soit les élus, que ce soit l'exploitant de remontée mécanique, de faire que cette entreprise fonctionne. Et une entreprise, elle est par définition mortelle. Et c'est l'équilibre fragile permanent entre le développement, entre la poursuite des activités. Et c'est clair que on vit en fait dans une station ce qu'on vit dans une entreprise. Et notre objectif, c'est de se battre pour exister.
C'est déjà arrivé, Emmanuel Georges, une station en faillite comme une entreprise serait en faillite.
Alors il y a eu récemment Drouzin-le-Mont en Haute-Savoie qui a arrêté son activité. Il y a eu de tout temps, notamment dans les années 80, un certain nombre de difficultés économiques et financières pour les collectivités locales support de ces stations, notamment aussi avec les premiers hivers sans neige. Donc c'est des choses qu'ont connu les stations et qu'ont connu aussi les collectivités locales avec des difficultés, comme le dit Jean-Yves Rémy, de dimensionner les investissements, d'arriver à faire tourner l'ensemble des parties prenantes qui constituent une station, parce que il y a des acteurs économiques, il y a de la population locale, il y a des collectivités. Donc ce sont des acteurs qui doivent travailler ensemble et faire une partition commune, mais qui n'ont pas les mêmes objectifs et les mêmes logiques. Voilà. Jean-Yves Remy.
Oui, ce que je voudrais, c'est préciser un peu de sémantique à ce niveau-là. C'est que, effectivement, on parle souvent de l'or blanc, on parle souvent des investisseurs privés. Je crois qu'aujourd'hui, dans le modèle français, et je l'ai dit, c'est un service public avec une gouvernance très forte de la collectivité. Alors que nous essayons de faire des stations durables, nous, exploitants de remontées mécaniques, nous ne sommes pas durables. Nous sommes en fait locataires. On nous donne les clés de l'entreprise pour un certain temps. On a différents objectifs. Parfois, c'est uniquement la gestion, mais parfois, c'est aussi l'investissement. Alors, c'est clair que ce sont des contrats relativement longs, surtout si on investit. Et donc, notre objectif, c'est de mener à bien la mission pendant un certain temps. Mais on est systématiquement remis en jeu. Donc, je m'oppose un peu à cette idée de racheter une station. Je le dis parce que des stations qui ont connu un développement public... C'est un drame que parfois que de voir arriver un exploitant privé. Je leur dis, mais moi, je suis en fait locataire. Je vais essayer d'amener au mieux le domaine skiable, en tout cas le périmètre qui est le mien, dans le temps qui m'est imparti. Mais quoi qu'il en soit, la collectivité aura les moyens, au terme du contrat, de remettre en jeu ou de gérer directement les remontées mécaniques.
Mais alors, à partir du moment où c'est un opérateur privé qui se charge de la gestion d'un domaine, dans quelle mesure les bénéfices de la station continuent à profiter au territoire ? Alors, pour la Belle Montagne, par exemple, vous gérez des stations dans les Alpes aussi bien que dans les Vosges. J'imagine qu'à un moment donné, il vous arrive de faire profiter aux unes les bénéfices des autres. Est-ce qu'il y a encore une logique territoriale ?
Ah oui, il y a obligatoirement une logique territoriale. C'est-à-dire que le fait d'être un groupe donne un certain nombre de forces, de synergies. Mais quoi qu'il en soit, chaque site doit avoir sa rentabilité. Et le retour à la collectivité, il est soit indirect dans le dynamisme touristique et économique, mais il est aussi très direct dans la fourniture d'emplois, mais aussi de redevances, de taxes que l'on paye directement à la collectivité.
Gabriel Blanc, trois virages, un petit chousse, et vous êtes en bas de la station. Donc vous nous avez rejoint donc, à côté du téléski de la Pierre Fendue. Vous descendez de quelle piste là ?
On vient de la piste Polo Boniface, donc en redescendant de la station, c'est une des remontées qui permet d'accéder à l'ensemble de la station.
Quelle couleur ?
Alors, piste bleue, pour finir sur une bonne touche.
Vous étiez avec des enfants parce que vous êtes moniteur. Alors,
on a un groupe Première Étoile qui commence à se débrouiller un petit peu, on est à mi-semaine, donc ça va permettre de descendre la piste et leur donner un petit peu plus de difficultés, commencer à compliquer un peu les choses.
Alors Gabriel Blanc, vous skiez avec votre tenue rouge de moniteur de ski, mais sans votre écharpe tricolore, vous êtes également maire de Bonneval.
Je suis maire depuis 2 ans. J'avais déjà fait un bout de mandat à une époque, dans les années 87-88. Donc arrivant à la retraite, on peut se permettre de revenir à la mairie.
Alors ce qui est intéressant, Gabriel Blanc, c'est que en skiant sur ces pistes, vous slalomez un peu sur vos propres terres, par le biais d'une régie communale. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, les remontées mécaniques sont une émanation d'une régie communale qui permet de gérer directement l'ensemble du domaine skiable, avec tous ses avantages et ses inconvénients. Charge de personnel, gestion de l'ensemble, de la sécurisation, ainsi de suite. Ce qui est assez compliqué et un peu lourd sur les épaules pour le maire. Lorsqu'on est maire d'une commune, lorsqu'on gère du personnel, c'est très compliqué.
D'être patron de ses propres électeurs.
D'être patron, d'une part, de ses propres électeurs, ce qui complique un peu, ce qui n'est pas simple.
Donc ce n'est pas le domaine skiable à proprement parler, ce sont vraiment les installations qui appartiennent à la régie.
Les installations appartiennent à la régie, mais elles sont sur le territoire communal.
Mais vous en êtes fier de...
Alors c'est vrai qu'on en est fier parce qu'on peut gérer beaucoup plus facilement le domaine skiable, on peut le faire évoluer, on peut l'aménager à notre guise, c'est beaucoup plus simple. Lorsqu'il y a des petits problèmes, on intervient rapidement, donc c'est beaucoup plus simple à ce niveau-là, c'est vrai.
Par exemple, vous avez dû faire des aménagements ?
Des petits aménagements, des petites retouches de pistes, des réaménagements de téléski, modifications de pistes, tout ça, c'est beaucoup plus simple lorsque c'est la mairie qui le gère directement. On espère que ça continue, ça perdure et qu'on puisse tenir le coup encore quelques années, mais ça devient de plus en plus difficile vu les baisses des dotations d'État, les complications administratives, ce qui fait que ça devient de plus en plus contraignant. On a de moins en moins de gars qui veulent bien s'occuper de la tâche et aller au bout. Et avec l'élargissement des communes, enfin des communautés de communes, on est obligé d'avoir l'aval de l'ensemble de la population, je dirais presque de la vallée, ce qui fait qu'il y a beaucoup de concurrence avec les stations de ski, et de temps en temps, ben, le plus fort gagne. Et quand on est petit au bout, on risque de passer à la trappe.
Bonneval-sur-Arc est le petit pousset de la communauté de communes à laquelle elle appartient.
Une question de station de ski, on est dans les plus petits.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que les élus autour de vous, vos confrères des communes alentours, vous disent parfois, Gabriel, il va falloir changer de modèle ?
Alors, ça ne va pas être du direct, on va changer de modèle. Mais on va tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues de manière à vous mettre en difficulté et qu'à un moment donné, vous ayez du mal à passer le cap.
Mais pourquoi on vous mettrait des bâtons dans les skis, en fait ?
Ce que je disais tout à l'heure, les stations jouent entre elles avec une rivalité. Chaque station est superbe, elle est bien, ainsi de suite, mais va défendre son flambeau. Nous, on a un petit village authentique. Alors, on n'a pas laissé construire de grands bâtiments. On a gardé la structure vraiment locale, l'architecture locale. On s'y est battu. Et aujourd'hui, on voudrait continuer à le garder. On ne voudrait pas que ça dégénère.
Il y a déjà eu des projets d'extension de l'hébergement touristique. Vous avez combien de lits aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a à peu près 1800 lits touristiques. Notre gros souci, c'est qu'on a plus trop de terrain à bâtir et que beaucoup de ces résidences changent de main avec les héritages, avec le temps qui passe, et ça passe à résidences secondaires et des lits froids.
Donc ce qui a été longtemps votre force est en train de devenir votre faiblesse, c'est ces grands terrains que vous avez qui ne sont pas constructibles.
On commence à être victime de notre on a voulu respecter la nature, ne pas développer à outrance la station, et aujourd'hui on commence à être un peu petit, ce qui risque de poser quelques soucis à l'avenir. Donc on se pose déjà des questions pour le renouvellement de nos remontées mécaniques qui commencent à vieillir un petit peu. Et je pense qu'il faudra ressortir du terrain à bâtir assez rapidement, quitte à laisser installer un privé avec un peu de lits touristiques, gérer des lits chauds qui nous permettent de faire fonctionner nos remontées mécaniques au mieux. Et si ce n'est pas ça, ben je pense qu'il faudra peut-être aller voir du côté du col de l'Isran. Marcival d'Isère veut bien essayer de nous sortir d'affaires.
Ah, et donc ce sont deux options possibles, un investisseur privé ou se rapprocher d'une grande station, en l'occurrence Val d'Isère, qui n'est pas loin.
Je pense qu'à l'avenir, on n'aura pas trop le choix. Il faudra trouver une solution qui nous permette de continuer à vivre sur Bonneval.
Et aujourd'hui, tout le monde comme vous, tous les habitants de Bonneval, multiplient les casquettes. Alors vous êtes à la fois maire, moniteur de ski et agriculteur, je crois.
Oui, c'est ça.
Donc vous, le matin, vous vous levez, vous occupez de vos bêtes.
Se lève à 5h le matin, 5h30 on part s'occuper du bétail. 7h30, on rentre à la maison, on se lave, on casse la croûte. Et à 9h, on part au boulot jusqu'à 17h, où on repart à 17h30 voir le bétail. S'en occuper jusqu'à 20h à peu près.
Et quand il y a une équipe de radio qui vient vous poser des questions, ça vous rallonge d'autant. Vos bêtes crient famine.
Pas vraiment, mais bon. Ça décale de 5 minutes, c'est pas grave ça.
Quel est, d'après vous, l'avenir de Bonneval ? Est-ce que vous pourrez longtemps tenir sans faire appel à un investisseur privé ? Sans que Bonneval ne change de nature.
On s'y attelle tant que possible, on essaye de ne pas laisser dégénérer les choses. Alors c'est vrai que pour l'instant on tient, pour combien de temps on ne sait pas, mais on fait tout pour tenir le plus longtemps possible. Parce que tant qu'on aura les rênes du pays en main, je pense qu'on pourra tourner. Le jour où on les perd, on ne sait pas, on met le doigt dans le grenage, on ne sait pas où on pourra finir.
C'est la deuxième option évoquée par le maire de Bonneval-sur-Arc, Emmanuel Georges, celle de se rapprocher de la grosse station d'à côté, Val d'Isère. Ça se fait souvent ça, le rapprochement des stations, la fusion des stations ?
Alors, c'est pas forcément une fusion, ça peut être la création de grands domaines reliés par le haut des domaines skiables. Ça se fait avec la création d'un certain nombre d'espaces commerciaux. Hein. On le connaît sur l'espace Killy entre Val d'Isère ou Tignes ou d'autres espaces, la Voie lactée, enfin toute une série qui permettent d'agrandir la capacité de ski pour la clientèle. Donc c'est des choses qui se sont pratiquées ces dernières années dans pas mal d'espaces qui sont devenus reliés, qui peuvent afficher un nombre de kilomètres de pistes relativement important.
J'imagine que dans le cas de Bonneval, ça pose des problèmes justement environnementaux puisque la liaison passerait par le col de l'Isran qui se situe en plein cœur du parc national de la Vanoise.
Ouais. Tout à fait. Oui, il y a déjà eu ce qu'on a appelé l'affaire de la Vanoise hein, dans les années 70. Je pense que derrière cette cette opportunité ou en tous les cas cette perspective de s'ouvrir à Val d'Isère, on ouvre la boîte de Pandore je dirais, l'opposition entre l'aménagement et la protection. De toute façon, il y a des outils réglementaires en France par rapport à la création de ce type de liaison, hein, via la loi et la création d'unités touristiques nouvelles, même si le cadre législatif est en train d'évoluer. Donc je pense que là, on est vraiment sur un débat entre deux logiques et deux conceptions de l'aménagement entre Bonneval aussi et Val d'Isère.
Jean-Yves Remy, c'est possible de concilier vraiment vie économique, développement économique et protection de l'environnement, ou ce n'est qu'un doux rêve? Est-ce qu'on peut avoir les deux en vrai sur le long terme?
Ce qui reste compliqué, c'est qu'il n'y a pas de tourisme sans aménagement. Je pense que tout tourisme a besoin d'équipement et donc forcément, là, on essaye de concilier l'inconciliable. Je pense que pour autant, il faut raison garder et aujourd'hui, il y a des périmètres qui sont définis, des périmètres aménagés qui, globalement, à l'échelle des Alpes, restent relativement faibles. Et tant qu'on reste dans ces périmètres-là, il n'y a pas d'enjeu fort par rapport à l'aménagement et à la protection de la protection de la nature. Mais c'est clair que il y a un antagonisme à ce niveau-là. On essaye par contre aujourd'hui très clairement d'aménager différemment, de construire différemment. On intègre plus qu'avant les données environnementales pour construire. Mais encore une fois, voilà. Une remontée mécanique, il y aura toujours des pylônes, il y aura toujours des câbles, et ça malheureusement on peut difficilement le changer.
Gabriel Blanc, le maire de Bonneval, nous expliquait qu'il n'y avait plus assez de lits à Bonneval, comme si la commune était victime de sa bonne conduite, puisqu'elle a classé la plupart des terrains constructibles justement pour limiter l'urbanisation, et donc il n'y a plus assez de lits pour remplir les remontées mécaniques, d'où l'intérêt de lier les deux, c'est-à-dire de gérer en même temps de concert hébergement et remontées mécaniques.
Une des difficultés actuelles pour les domaines skiables, et je le connais à peu près dans tous les sites où je suis installé, c'est de gérer le renouvellement en fait du matériel. Les stations françaises se sont créées dans les années 70, 80, 90, et c'est clair qu'aujourd'hui, le domaine skiable, les équipements du domaine skiable doivent être renouvelés. Et il faut trouver là le juste équilibre entre les coûts que vont générer ce renouvellement et puis les recettes que l'on peut en tirer. Et très clairement, la recette d'une station de sport d'hiver est très dépendante du nombre de ces lits.
Emmanuel Georges, il y en a des stations qui méritent une vraie rénovation. En fait, vous parlez de certaines stations sarcelliennes, d'ailleurs, dans vos travaux. On en fait quoi de ces stations?
Alors, comme Jean-Yves Rémy vient de le dire, la période où on a créé les stations dites intégrées, hein, en lien avec le plan neige, on a fait un nombre de lits assez important, fondés sur l'immobilier loisirs. Et le maire de Bonneval le dit bien dans le reportage, c'est que finalement, les deux pieds de ce qu'est une station, c'est à la fois le domaine skiable et les remontées mécaniques, qu'il faut renouveler. Faire passer en grande visite de sécurité, etc. Et puis de l'autre côté, un immobilier loisir qui est essentiellement fondé sur des résidences secondaires au démarrage. Donc on a ces deux pieds. Aujourd'hui, on est 40, 50 ans après la création de ces lits où on a fait des ensembles immobiliers assez importants. Il faut les rénover, les réhabiliter. On les a construits dans des périodes où, en termes énergétiques, on n'avait pas du tout les mêmes conditions que maintenant. Donc on est avec cette problématique-là de la rénovation et surtout de l'adaptation à la clientèle.
Jean-Yves Remy, pour conclure, Gabriel Blanc nous dit qu'il va sans doute devoir, dans les années qui viennent, se rapprocher d'un privé. Est-ce que ça intéresse la belle montagne?
C'est un peu tôt pour en parler. Je pense qu'effectivement, il a un gros voisin à côté de lui, il y a un problème environnemental. On verra le moment venu.
Merci en tout cas, Jean-Yves Remy, PDG de la Belle Montagne, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, Emmanuel Georges, chercheuse à l'IRSTEA de Chambéry.
De Grenoble.
Nous sommes à Chambéry soir, mais vous êtes à Grenoble. Nous mettons vos travaux en lien sur le site de France Culture, à la page de Sur la Route. N'oubliez pas de vous abonner au podcast. Notre petite entreprise poursuit sa route en montagne. Yvon Croisier au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à France Bleu Pays de Savoie pour son accueil. À la technique, c'était Stéphane Boja. La semaine prochaine, nous serons en Bourgogne sur la route des étoiles de la gastronomie, splendeur et misère du dernier guide Michelin, avec un tout jeune chef qui, à 23 ans, a gagné sa première étoile, tandis que le restaurant de Bernard Loiseau à Saulieu a perdu sa troisième. Il est bientôt 19h sur France Culture. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez rendez-vous avec Marie-Hélène Freissé pour Tout un monde.